Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins, on est ensemble pendant une heure. Hey, you know what? Cette émission tente tous les jours de traverser les apparences grâce à Laure Andrion, Tristan Grenassia, Marianne Chasseur, Geneviève Méric et Géraldine Mosna-Savoie. Elle flirte avec le trouble du genre musical grâce à Philippe Baudouin cette semaine à la réalisation, avec aujourd'hui, à la prise de l'essence du son, Emmanuel Morse-Duncan. Parce que les rituels sont nécessaires à la création, à 10h50 précise, comme tous les jours, vous retrouverez François Nudelmann pour le journal de la philosophie. L'invité du journal sera le psychanalyste François Gantret. Il viendra vous parler du dernier numéro de la revue Pensée Rêvée, un numéro consacré au genre totalitaire et publié par les éditions de l'Olivier. En octobre 1928, Virginia Woolf est invitée à donner une conférence à l'université de Cambridge sur le thème « Les femmes et la fiction ». Refusant de faire ce qu'on attend d'elle, faire une ou deux remarques sur Jane Austen, une allusion à George Eliot et rendre hommage aux sœurs Brontë, Woolf saisit cette occasion non seulement pour interroger la spécificité d'une démarche féminine face à la littérature, ce qui est loin d'être évident, mais surtout ramène cette question à un constat aussi simple que décisif. Pour qu'une femme écrive un roman, il lui faut de l'argent et une pièce bien à elle. Dix ans plus tard, Woolf reprend le fil de cette réflexion au sein d'un texte intitulé « Trois Guinées », en l'inscrivant dans une analyse de la société britannique et de la situation politique de l'Europe de 1938. Texte hybride qui mêle la forme de l'essai à celle de la fiction et qui propose de brûler le terme de féminisme pour lui substituer celui de femme, tout simplement. Quelle place tiennent ces essais dans l'œuvre de la romancière ? La question de l'identité du féminin chez Woolf dépasse largement le cadre de ses essais. Elle insuffle et densifie des textes tels que Mrs. Dalloway, Les Vagues ou encore, de manière plus explicite, Orlando. En posant la question de l'identité du féminin, Virginia Woolf non seulement crée une unité constellaire entre ses essais et ses romans, mais surtout montre que toute écriture est toujours écriture de soi et que chaque œuvre est collective. Bonjour Françoise Duroux.
Bonjour.
Vous êtes professeure émérite de philosophie en études féminines et de genre à Paris 8 et vous avez dirigé un ouvrage intitulé Virginia Woolf, identité, politique et écriture qu'on trouve aux éditions Indigo. Et à vos côtés en studio se trouve Anne-Marie Di Biasio. Bonjour.
Bonjour.
Quant à vous, vous êtes l'auteur d'un autre ouvrage consacré à Virginia Woolf, toujours aux éditions Indigo, un ouvrage intitulé La hantise de l'écriture. Et c'est donc avec vous deux que nous allons parler de cette dimension propre aux écrits de Virginia Woolf, une dimension peut-être moins connue, qui est la dimension féministe. Et je le disais en début d'émission, Virginia Woolf a consacré des essais, des textes à cette question féministe. Et pourtant, on est obligé de constater, en tout cas aujourd'hui, une forme de silence qui est fait autour de cet aspect-là de son œuvre. Alors peut-être on peut partir de là. Comment expliquer ce silence contemporain, en tout cas de la dimension féministe de l'œuvre de Virginia Woolf, Françoise Duroux?
Moi, je ne donnerais pas une explication radicale, mais je dirais que, effectivement, la place théorique a été, disons, monopolisée, suroccupée par la référence à Simone de Beauvoir. Le deuxième sexe a voyagé entre la France et les États-Unis, est revenu en France, et de cette façon, on n'a plus entendu parler des textes théoriques ou politiques de Virginia Woolf. Enfin, on en a beaucoup moins entendu parler. Les Anglaises elles-mêmes ont rendu des hommages, ont célébré les anniversaires du deuxième sexe, mais ont très très peu fait référence à leurs compatriotes.
Et pourtant, ce qu'affirme Simone de Beauvoir elle-même ne recouvre pas complètement ce que dit Virginia Woolf. Ce n'est pas une parole qui s'est substituée à une autre en exprimant la même chose.
Ah non, non, pas du tout. Je pense qu'elle ne partait pas du tout, ni de la même expérience, ni du même projet. Donc moi, ça m'a toujours absolument... Ça a été un souci pour moi de montrer que Virginia Woolf, en tant que théoricienne, c'est-à-dire dans ses écrits théoriques et tout particulièrement dans Trois Guinées, apportait à la pensée féministe énormément de choses et que, en fait, l'actualité de Trois Guinées est tout à fait frappante quand on le relit, y compris dans son caractère roboratif, provoquant et quelquefois. Et donc c'est pour ça que j'étais très heureuse d'arriver à faire cette journée d'études qui a donné le livre en question, qui réunissait des gens, disons, venus de points très différents, puisqu'il y avait une cinéaste, Dominique Brard, des spécialistes, disons, de Virginia écrivain, et d'autres, des psychanalystes, mais pas du tout d'un point de vue médical, hein, c'est-à-dire plutôt d'un point de vue théorique. Et bon, cette journée a été très agréable dans la mesure où il y a eu une confluence progressive entre les contributions de tous les gens qui étaient là, qui tous avaient pas mal travaillé. Donc c'était...
Ce qui montre bien effectivement que l'œuvre de Virginia Woolf se situe à la croisée de plusieurs disciplines et qu'il y a vraiment différentes façons de réfléchir à, notamment à son féminisme.
Mais je pense qu'elle n'est pas disciplinaire du tout.
Alors justement, Anne-Marie Di Biasio, pas même si on en revient à Simone de Beauvoir, puisque Françoise Duroux disait que l'ombre de Simone de Beauvoir était telle qu'elle avait complètement recouvert la postérité de la réflexion féministe de Virginia Woolf. Est-ce que peut-être pouvez-vous préciser que lorsque Simone de Beauvoir affirme cette phrase à laquelle on la réduit souvent, on ne naît pas femme, on le devient. Est-ce que c'est un constat auquel s'oppose Virginia Woolf ou est-ce que là il y aurait une similitude qui pourrait permettre de commencer à cerner ce qu'est la pensée féministe de Virginia Woolf ?
Mais il y a deux choses dans Woolf. Il y a le refus d'une acculturation féminine et en même temps il y a un engagement qui reprend le même refus chez de Beauvoir, le refus de l'acculturation. Et en même temps il y a un engagement féminin dans l'écriture qui est tout à fait différent. Mais en écoutant votre question, j'ai pensé à un moment dans Trois Guinées qui est assez amusant, où elle refuse même le mot féminisme. Et elle dit même qu'on devrait écrire ce mot sur un papier et brûler ce papier. Et on se demande bien ce qu'elle voulait dire par ça. Mais moi, ça m'a fait penser à un essai de Paul Valéry où il parle de l'observation d'artistes. Et en disant que tout objet éclairé sous le regard de l'artiste perd son nom. Et je crois qu'elle regarde cet objet, la femme, cette notion du féminisme, et en l'éclairant, elle nous laisse que cet éclairement. C'est-à-dire que ce n'est pas le nom féminisme qui l'intéresse tant qu'une pensée, qu'elle ne veut pas qualifier, elle veut plutôt se donner à une mise à plat de toutes les questions qui sont en jeu justement dans cet essai contre la guerre, contre l'impérialisme, le militarisme, le sexisme, et exposer les questions de ce genre-là. Et en même temps, il y a le paradoxe de son refus de ce qu'elle appelle la prostitution intellectuelle vers la fin du livre, où elle-même, on sait qu'à ce moment-là, elle refusait de vendre sa pensée, elle refusait d'écrire dans des magazines américains qui lui proposaient de grosses sommes d'argent, et c'était une forme de résistance. Et en même temps, le paradoxe de tout ça, c'est que je crois bien que ce sont les féministes américains qui, pendant les années 60 et les années 70, ont le plus fait pour nous faire connaître, reconnaître l'écriture de Virginia Woolf dans le monde anglophone.
Alors, vous parlez, Anne-Marie Di Biasio, de ce combat de Virginia Woolf contre la prostitution intellectuelle quand on est une simple lectrice. Je vous propose d'écouter un extrait tout de suite donc, du texte Trois Guinées, qui est un texte qui date de 1938, qui est interprété par la comédienne Anne Brissier. Écoutez.
Si vous êtes passive, si vous êtes une lectrice et non un écrivain, alors vous devez adopter non des méthodes actives, mais des méthodes passives permettant de protéger la culture et la liberté intellectuelle. Et que peuvent-elles être, demanderez-vous, de s'abstenir, évidemment, de ne pas souscrire à des journaux qui encouragent l'esclavage intellectuel, de ne pas assister à des conférences qui prostituent la culture. Car vous êtes d'accord qu'écrire sous le commandement de quelqu'un d'autre ce que l'on ne veut pas écrire, c'est être esclave, et que mélanger la culture au charme personnel ou à la promotion, c'est prostituer la culture. À travers ces mesures actives et passives, vous feriez tout ce qui est en votre pouvoir pour casser la ronde, le cercle vicieux, la danse autour du mûrier, cet arbre empoisonné du libertinage intellectuel. Une fois le cercle rompu, les captifs seraient libérés. Qui pourrait douter qu'après avoir eu la chance d'écrire ce qu'elles aiment écrire, après avoir trouvé un tel plaisir, ces écrivains refusent d'écrire dans d'autres conditions? Ou que les lecteurs, après avoir eu la chance de lire des auteurs prenant plaisir à écrire, ne trouveraient pas ces textes bien plus nourrissants que ceux écrits par intérêt, à tel point qu'ils refuseraient de se faire refiler plus longtemps des substiturances. Ainsi les esclaves qui sont aujourd'hui forcés de travailler dur en empilant les mots dans des livres, en empilant des mots dans des articles, comme autrefois les esclaves empilaient les pierres pour construire des pyramides, dégageraient leurs poignets des menottes et abandonneraient leurs détestables travaux. Et la culture, ce paquet amorphe, emmailloté comme elle est aujourd'hui dans l'insincérité, émettant des demi-vérités de ses lèvres timides, édulcorant et diluant son message avec n'importe quel sucre ou n'importe quelle eau pour gonfler la célébrité d'un auteur ou le porte-monnaie de son maître, la culture retrouverait alors sa silhouette et deviendrait ce que Milton, Keats ou d'autres grands écrivains nous assurent qu'elle est vraiment musculaire, aventureuse et libre.
Françoise Duroux, le texte de Trois Guinées est un texte assez étrange, hein, de par sa forme déjà. Donc, je l'ai dit, il était rédigé en 1938. Et il a une forme qui mêle l'essai et la fiction, puisque c'est une forme de roman épistolaire imaginé, mais qui est l'occasion pour Virginia Woolf de, oui, de prononcer des jugements et dénoncer des jugements et de faire des constats sur la situation politique à l'époque.
C'est-à-dire qu'à la question posée par effectivement un correspondant imaginé à cette question. Comment faire pour éviter la guerre? Elle ne répond pas directement. Elle répond, tout en ne répondant pas d'ailleurs, tout à fait à la fin. Elle ne répond pas directement, elle pose d'abord un certain nombre de questions à son tour, ou de conditions qui renvoient à la, disons, à un constat, au constat de la situation des femmes à son époque. Et c'est pour ça que, finalement, Trois Guinées reste très actuelle.
Alors,
quand on le lit.
Sur ce titre, que signifie Trois Guinées?
Eh bien, elle répond à son correspondant. Écoutez, moi, je veux bien éviter la guerre, mais j'en ai pas les moyens. Donc, il faut d'abord nous en donner les moyens. Et à la fin, elle dira, oui, mais de toute façon, les moyens que vous allez nous proposer ne sont pas satisfaisants. Signer des pétitions... Faire des protestations, ça ne sert à rien. Donc, pour nous donner la possibilité de répondre, il faut déjà nous donner les conditions de possibilité de cette réponse. Donc, c'est là où le texte est extrêmement matérialiste et politique, à savoir que la première Guinée serait destinée à l'éducation de la petite sœur d'Arthur, pas de Shakespeare, puisque Arthur a droit à des subventions parentales pour aller dans les grandes universités qui lui sont ouvertes, alors que la petite sœur d'Arthur, elle, n'a pas le droit. Non seulement les parents n'investissent pas dans son éducation, mais encore les portes de ces universités et des bibliothèques lui sont fermées. Donc, Cette première Guinée serait pour créer des universités pour les filles, mais des universités qui ne soient pas copiées sur les grandes universités des garçons, Oxford, Cambridge, etc., mais qui soient des universités pauvres, chastes, donc qui ne débouchent pas sur des professions prestigieuses qui feraient, disons, entrer les filles dans la procession qui existe déjà, des notables, des grands de ce monde, etc., vêtus de pourpre et d'hermine, mais bon, qui seraient en fait des universités qui forment, qui apprennent à penser, et qui apprennent à penser librement. Donc la deuxième Guinée serait une Guinée pour que les filles, les hommes cultivés, comme elle les appelle, ce qu'elle est, puisque son père, Leslie Stephen, est un homme cultivé qui consacre sa vie à faire un dictionnaire, donc qui est extrêmement érudit sur tout et qui ne pense qu'à ce challenge qui est d'arriver de A jusqu'à Z. Ce qui l'a fait un peu rire, parce que disons que non seulement elle ne manque pas d'humour, mais par-dessus le marché, quelquefois, elle est même constamment caustique.
Donc ces deux Guinées, en tout cas ces trois Guinées, puisqu'il y en aura une troisième, comme l'indique le titre, sont en fait une bonne façon de comprendre de quelle façon Virginia Woolf réfléchit à l'identité féminine. C'est la méthode qu'elle met en œuvre est une méthode matérialiste, vous l'avez dit, Françoise Duroux. C'est tout simplement, elle tient en une phrase qu'on trouve dans le texte, une pièce bien à soi, ou alors une chambre à soi, ça dépend des traductions. On ne peut bien penser, aimer ou dormir que si l'on a bien mangé. Anne-Marie Tibiasio.
Oui, je pense qu'il y a le mode matérialiste, mais qu'en même temps, le titre « Trois Guinées » a une portée symbolique, puisque ce n'était plus une pièce d'argent à cette époque. On pouvait former le montant d'une Guinée, c'était 21 shillings, mais la Guinée elle-même, en tant que pièce d'argent, n'existait plus. Et existait seulement pour certains paiements, dont les avocats, les médecins. Et il y a une autre mention de Trois Guinées dans l'œuvre de Virginia Woolf, ou dans un manuscrit d'un roman qu'elle était en train d'écrire en même temps que cet essai, où il y a une conversation entre deux femmes dont une se pose la question d'aller consulter un médecin pour la contraception. Et c'est le prix qu'elle devrait payer. Donc je crois qu'il y a cette allusion voilée aussi au tabou de l'argent, de la sexualité féminine dans ce titre. Et que ce n'est pas un hasard si elle a choisi une somme qui a cette portée symbolique, qui le paiement des professionnels. Et joue aussi avec le nombre 3, n'est-ce pas? Puisqu'il y a 3 correspondants. Elle dit qu'elle a mis 3 ans à amasser les munitions pour pouvoir enfin écrire ce livre et faire exploser la cathédrale de Saint-Paul. Il y a 3 journaux qu'elle lit 3 journaux par jour, 3 journaux hebdomadaires pour lui donner une multiplicité de perspectives sur son sujet. Et ce sont les découpages de ces journaux qu'elle colle, qu'elle insère dans ce livre, dont la forme est tout à fait étonnante et ludique en même temps. On dirait un collage, un montage presque moderniste avec des coupures de journaux, des citations qu'elle met en dérision. Puis il y a tout le paratexte des notes qui sont écrites dans une tonalité tout à fait différente que le texte lui-même. Et ensuite, les photos absentes, qui ont une puissance imaginaire très importante et qui sont là comme un contrepoint poignant des photos des hommes de pouvoir dans leur tenue cérémoniale, qui sont là présents, le pape, le gendre de Mussolini, le chef des scouts de l'Angleterre de l'époque. On voit ces photos-là en toute caricature. Et le contrepoint, le souvenir qui nous est rappelé dans une même phrase qui fait refrain, les cadavres et les maisons en ruine, les photos de la guerre d'Espagne, puisqu'il ne faut pas oublier que C'est un livre qu'elle écrit aux prises avec ce réel qui est la montée des fascismes.
Mais quel est l'objet du livre précisément, Anne-Marie Desbiasio, puisque vous l'avez dit, Françoise Duroux l'a rappelé, le livre s'ouvre en fait avec une lettre qu'on aurait adressée au narrateur et qu'on lui demanderait comment faire pour arrêter la guerre et ce à quoi elle répondrait, je n'ai pas la solution, mais voilà, elle proposerait plusieurs réflexions, dont ces réflexions sur le rôle et la place de la femme dans la société. Mais le livre donne également, accorde une large part à des réflexions d'ordre politique, sociologique. Donc, quelle est l'intention de Virginia Woolf en écrivant ce livre? Ce n'est pas, enfin, on aurait tort de le réduire à un simple pamphlet féministe. C'est pas du tout ça le propos du livre. Et pourtant, est présent au sein de ce livre des réflexions qui essayent de montrer qu'on ne peut pas réduire la femme à une ontologie féministe, que celle-ci n'aurait aucun sens, mais en même temps qu'il est nécessaire de réfléchir au rôle et à la place que joue la femme dans la société de 1938 dans laquelle elle vit. Et peut-être que c'est une bonne façon de montrer la façon qu'elle a de produire cette pensée féministe n'est jamais un but en soi, c'est toujours en l'insérant dans un contexte, une réflexion beaucoup plus large.
Oui, je pense que l'objet du livre est justement de créer un espace du présent, un écart, intervalle, un pont, si vous voulez, puisque elle situe les femmes qui doivent regarder la procession qui passe sur un pont, c'est-à-dire entre deux mondes, le passé et le présent, Westminster, le Parlement, la ville, et elle les incite à regarder en surplomb cette procession. Et à réfléchir, est-ce qu'on peut y participer ou pas? Et en décrivant cette procession, on pense aussi à Walter Benjamin, son contemporain, qui voyait dans tout document de la culture un document de la barbarie, n'est-ce pas? Et je pense qu'elle a cette même pensée, comment on peut se joindre à quelque chose où on voit justement toute la machinerie de la barbarie derrière et où est-ce que cela nous mène. Alors c'est un espace de pensée et de transition qu'elle ouvre et qui s'incarne plus tard dans le livre dans ce qu'elle appelle la société des marginales, puisque occuper la marge, je crois que c'est ça l'objet du livre, occuper une marge qui peut avoir un lieu. Mais est-ce que ce lieu-là sera le même lieu que nous propose ou que pourraient nous proposer les hommes? Je pense que c'est très important, tous les points d'observation qu'elle nous donne, les points d'observation, et qu'elle nous incite à regarder et à occuper l'intervalle.
Occuper l'intervalle et occuper un lieu particulier, le terme de lieu que vous avez employé n'est pas anodin, Françoise Duroux. Enfin, je me tourne vers vous, Françoise Duroux, puisque le lieu, c'est également ce lieu qui constitue le cœur de son autre ouvrage qui précède Trois Guinées, qui est Une chambre à soi. Le lieu, c'est cela, c'est aussi faire en sorte que la femme, on en revient à la dimension matérielle de son féminisme, faire en sorte que la femme puisse avoir un lieu à elle, un lieu où écrire, où dormir, où manger, qui ne la concerne qu'elle-même en tant que femme.
Oui, enfin, c'est plus compliqué, je pense, parce que, effectivement, c'est un peu faire de nécessité vertu la société des marginales, puisque de facto, les femmes sont mises à la marge. Et donc, cette marge, il ne s'agit pas de l'occuper, mais il s'agit d'en tirer parti. Donc, c'est pour ça que, effectivement, les interventions des femmes ne peuvent pas être d'emblée des interventions dans le champ existant du politique, mais sont forcément faites d'un point extérieur. Alors ce point extérieur, à l'heure actuelle, bon, il y a beaucoup de féministes qui cherchent à le refabriquer de façon plus ou moins volontaire et artificielle. Le regard de biais, etc. Bon, chez Teresa de Lauretis, par exemple. Mais chez Virginia Woolf, en fait, le regard de biais, il est toujours déjà donné. Les femmes ne peuvent pas... Elles ont un regard de biais, forcément, puisqu'elles sont... Et puis, quand elles pensent de façon assez particulière par rapport à la pensée ordinaire, académique, masculine. Puisque, en fait, elles pensent en remuant les casseroles, en secouant les berceaux, et elles pensent de manière, non pas dans une bulle, mais leur pensée est complètement ouverte à tous les vents. Elles pensent dans le courant d'air.
tous les grands romanciers comme Thackeray, Dickens et Balzac ont écrit une prose naturelle, vive sans être négligée, colorée sans être précieuse, adoptant sa tonalité propre sans cesser de relever du domaine commun. Ils s'appuyaient sur la phrase courante à leur époque. Elle disait peut-être quelque chose comme « la noblesse de leurs œuvres était un argument à leurs yeux, non pas pour s'arrêter mais pour continuer ». Rien ne leur procurait davantage d'enthousiasme ou de satisfaction que l'exercice de leur art et la production ininterrompue de vérité et de beauté. C'est là une phrase d'homme. Mais une telle phrase n'est pas adaptée à l'usage d'une femme. Malgré tout son talent pour la prose, Charlotte Brontë a trébuché avec cette drôle d'arme à la main. George Eliot a commis des atrocités indescriptibles. Jane Austen l'a regardée, s'est mise à rire et a conçu une phrase tout à fait naturelle et bien proportionnée, adaptée à son propre usage, dont elle ne s'est jamais écartée par la suite. Ainsi, même douée de bien moins de génie pour l'écriture que Charlotte Brontë, elle réussit à exprimer beaucoup plus. De fait, étant donné que la liberté et la plénitude de l'expression font partie de l'essence de l'art, un tel manque de tradition, une telle pénurie et inadaptation des moyens ont dû avoir une répercussion énorme sur l'écriture des femmes.
I've been down to Madison to see the folks and sights. You'd laugh, I'm sure, to hear them talk about the women's rights. Now it's just as plain as my old hat, as plain as plain can be, that if the women want the vote, they'll get no help from me. Not from Joe, not from Joe, if he knows it, not from Joseph, no, 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 not from Joe, not from me, I tell you, no.
Say, friend Joseph, why not we should vote as well as you? Are there no problems in this state that need our wisdom too? We must pay our taxes same as you, as citizens be true. And if some wicked thing we do, to jail we're sent by you. Yes, we are, same as you, and you know it, don't you, Joseph? Yes, you do, yet you boast you'll not help us win the vote.
Vous écoutez France Culture, vous êtes sur le nouveau chemin de la connaissance. Il est 10h27 et nous parlons de Virginia Woolf toute cette semaine et aujourd'hui, plus particulièrement de deux textes, Trois Guinées et Une chambre à soi ou Une pièce bien à soi selon les traductions, c'est-à-dire de deux textes féministes de Virginia Woolf en compagnie de Françoise Duroux et de Anne-Marie Smith DiBiasio, auteurs respectivement de Identité politique et écriture de Virginia Woolf, paru aux éditions Indigo, et de Virginia Woolf et la hantise de l'écriture, paru également aux éditions Indigo.
From me, I tell you, no.
Joseph, tell us something new. We're tired of that old song. We'll sew the seams and cook the meals. To vote won't take us long. We will help clean house the one too large for man to clean alone. The state and nation, don't you see, when we the vote have won. Yes, we will, and you'll help, for you'll need our help, friend Joseph. Yes, you will, when we're in, so you'd better help us win.
You're just right how blind I've been. I ne'er had seen it thus. 'Tis true that taxes you must pay without a word or fuss. You are subject to the laws man-made, and yet no word or note can you sing out where it will count. I'll help you win the vote. Yes, I will.
Thank you, Joe.
We'll together soon be voters.
Yes, we will.
If you'll all vote yes at the polls next fall.
Anne-Marie DiBiasio, le texte que j'ai lu juste avant, qui était extrait de, d'une chambre à soi, une pièce bien à soi, dans la traduction qu'on trouve dans la petite bibliothèque Rivage Poche, on entendait la façon avec laquelle Virginia Woolf décrivait une écriture qui serait féminine et une écriture qui serait masculine. Ce qui nous permet peut-être de rentrer plus en amont, plus en avant dans la définition de ce qu'est la position féministe de Virginia Woolf. À quoi aspire-t-elle véritablement et pourquoi se bat-elle pour une égalité entre l'homme et la femme, tout en maintenant la spécificité de l'un et de l'autre, ou de l'une et de l'autre, ou à un combat, à une revendication proprement féminine qui concernerait l'identité féminine en tant que telle, indépendamment de son rapport à l'homme.
Oui, c'est peut-être là où on peut parler de ce qui la distingue de Simone de Beauvoir, en plus, puisque je trouve que dans sa recherche d'une écriture qu'on peut appeler féminine, d'une nouvelle phrase, dans sa recherche de créer, de creuser les monuments et les édifices du savoir, elle veut aller vers un territoire plus archaïque, qu'on pourrait appeler la préhistoire, hein. De l'identité féminine. Et on voit ça dans l'extrait d'une chambre à soi où elle parle de ces deux femmes qui travaillent ensemble, non pas dans une chambre, mais dans un laboratoire. Mais le laboratoire, c'est aussi important qu'une chambre où on peut écrire et qu'elle partage. Et comment on les découvre, ces deux femmes? On les découvre comme dans une caverne, elle dit. Et la lumière tombe sur le bras d'une de ces femmes comme si on découvrait une femme de la préhistoire. C'est ce qui est dit dans l'extrait. Et moi, j'aime beaucoup cet extrait parce que je trouve que ce qui suit dans le projet de l'écriture qu'elle dessine pour cette femme à venir, qu'elle nomme Mary Carmichael, qui devra écrire l'histoire de ces deux femmes, ce qu'elle devrait faire, c'est d'attraper ces gestes inédits, ces paroles jamais prononcées, à moitié prononcées, qui se forment de manière à peine plus palpable que les ombres de phalènes au plafond, lorsque les femmes se trouvent entre elles. Et je crois qu'il y a toute cette importance de faire entendre la peine articulée, la peine entendue, la peine prononcée, la mélodie à peine audible dont elle nous parle dans To the Lighthouse, le petit langage qui est le refrain qui revient dans The Wave, cette recherche d'un petit langage, d'une désagrégation de la masse langagière. Et ce a lieu de façon... D'un côté, elle glane des bribes, elle a une écoute extrêmement aiguë, qu'on a appelée une écoute féminine, mais une écoute de ce qui est sous-entendu, de ce qui, dans la parole, échappe au sens et qu'elle voudrait capter dans son écriture. Et pour pouvoir faire ça, elle doit creuser cette masse langagière qu'elle a héritée et qu'elle ne va jamais renier. Elle va creuser la masse langagière et elle va créer une structure où les creux et les plis existent de telle sorte à ce que ces échos puissent être entendus.
Mais c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas une idée de la femme qui précéderait l'écriture, mais ce serait dans et par le modèlement d'une nouvelle écriture que l'on pourrait saisir ce que serait la spécificité féminine. Est-ce qu'on peut le comprendre
comme
ça ?
Je pense que Marguerite Duras disait un peu la même chose lorsqu'elle parlait d'une écriture de mots seuls, sans grammaire. Ce qui est assez paradoxal pour Duras, qui avait une grammaticalité irréprochable. Mais elle parlait de ce trajectoire de mots seuls sur la page aussi. Et je suis tout à fait d'accord, oui.
Mais Françoise Duroux, pour pouvoir parler d'une écriture proprement féminine, comme elle le fait dans Une chambre à soi, il faut quand même avoir une idée préalable de ce qu'est une femme, puisque l'écriture féminine peut-être s'auto-engendre, c'est dans l'écriture que l'écriture féminine prend sens, mais si on arrive à lui accoler l'adjectif de féminin, c'est donc on présuppose que le féminin existe avant l'écriture.
Moi, je pense que justement, Virginia Woolf ne pensait pas que le féminin préexistait, mais que effectivement les femmes étaient dans une position telle qu'elles étaient contraintes, disons, d'inventer une écriture autre, une écriture de biais, ou ce que Monique Wittig appellera beaucoup plus tard le chantier littéraire. C'est-à-dire un travail sur la langue, et au fond, pas l'invention d'une autre langue, mais dans la conférence qu'elle a prononcée à la BBC en 1937, elle dit « Notre souci est de voir ce que nous pouvons faire avec notre vieille bonne langue anglaise telle qu'elle existe. Comment pouvons-nous allier les mots anciens dans un ordre nouveau, afin qu'ils survivent ? Qu'il crée la beauté, qu'il dise la vérité. » Les mots anglais sont pleins d'échos, de souvenirs, d'associations. Ils ont été partout, sur les lèvres des gens, dans les maisons, dans les rues, dans les champs. C'est assez facile d'inventer des mots nouveaux. Ils bondissent sur nos lèvres chaque fois que nous avons un nouveau regard. Mais elle, ce qu'elle veut, c'est effectivement travailler sur le matériau existant.
On a d'ailleurs entendu un extrait de cette conférence par Virginia Woolf. On entendait sa voix qui est extrait ouvert l'émission.
C'est le seul exemple de sa voix qu'on ait.
Mais alors, travailler sur le matériau même du langage n'exclut pas, et vous l'avez bien dit, Anne-Marie Di Biasio, le fait de travailler également de manière plus généalogique et de s'inscrire dans un certain héritage. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait d'une chambre à soi, ou une pièce bien à soi, dans lequel on entend Virginia Woolf qui montre l'importance de s'inscrire dans l'héritage de poétesse et d'une poétesse mal connue, et peut-être on ne sait pas si elle est bien vivante ou pas. Écoutez.
Je vous ai raconté dans le courant de cette conférence que Shakespeare avait une sœur. N'allez pas toutefois la chercher dans la vie du poète rédigée par M. Sidney Lee. Elle périt jeune, hélas, sans avoir écrit une ligne. Elle est enterrée là où s'arrêtent à présent les omnibus, en face d'Elephantine Castle. Ma croyance à moi est que ce poète qui n'a jamais rien écrit et qui se trouve enterré au carrefour est vivante. Elle vit en vous et en moi, ainsi qu'en beaucoup d'autres femmes qui ne sont pas là ce soir car elles font la vaisselle et couchent les enfants. Elle n'en est pas moins bien vivante, car les grands poètes ne meurent pas. Ils sont éternellement présents et ne demandent que l'occasion de venir parmi nous en chair et en os. C'est cette occasion qu'il est à présent en votre pouvoir, du moins selon moi, de lui donner. Car ce que je crois, c'est que si nous vivons encore un siècle environ, je parle de la vie courante qui est la vie réelle et non des petites existences séparées que nous menons en tant qu'individus, et que nous disposons de 500 livres par an et d'une pièce à nous. Si nous nous habituons à la liberté et avons le courage d'écrire exactement ce que nous pensons, si nous nous soustrayons un tant soit peu au salon commun et voyons des êtres humains non pas toujours en relation les uns avec les autres, mais en relation avec la réalité, et le ciel, les arbres ou quoi que ce soit d'autre en soi. Si nous dépassons le spectre de Milton, car aucun être humain ne doit nous boucher la vue. Si nous nous confrontons au fait, car c'est un fait, que nous ne pouvons nous accrocher à aucun bras, mais que nous avançons seuls, en étant reliés au monde de la réalité et non pas seulement au monde des hommes et des femmes, alors l'occasion se présentera. Et le poète décédé, qu'était la sœur de Shakespeare, réinvestira le corps qu'elle a si souvent délaissé.
Françoise Duroux, il y a beaucoup de choses dans ce texte, un extrait d'une chambre à soi, puisqu'on y entend à la fois la volonté de Virginia Woolf de réfléchir non pas tant à ce qu'est le féminin, vous l'avez dit, mais à la situation des femmes. Et la différence est énorme entre une position plus essentialiste d'un côté qui essaierait de définir ce qu'est le féminin et de l'autre une démarche qui, elle, serait bien plus pragmatique, qui s'intéresserait à la condition des femmes à un moment donné. Mais également cette volonté d'inscrire dans un héritage, d'inscrire les femmes, là elle parle au nom des femmes, elle emploie le pronom « nous », d'inscrire les conditions d'existence des femmes au moment où elle écrit ce texte, dans l'héritage de ce qui serait la sœur de Shakespeare, une sœur qui serait décédée, que l'on pourrait faire revivre. Comment est-ce qu'on comprend cette référence à la sœur de Shakespeare, et pourquoi avoir besoin de prendre une poétesse, comme elle dit, hein, comme emblème ou comme guide des femmes au moment où elle écrit?
Sans doute une poétesse, parce qu'une poétesse aurait écrit peut-être autre chose que ce que Shakespeare a écrit. Et bon, le problème, c'est justement celui de la deuxième Guinée, qui est que les femmes ne soient pas femmes de ou filles de. Les filles des hommes cultivés. Et bon, ce qui est remarquable dans Trois Guinées, c'est qu'on peut dire que Trois Guinées s'éclaire, chaque facette de Trois Guinées s'éclaire de tous les textes fictionnels. Ne pas être femme de, c'est le sentiment qui saisit Mrs. Dalloway Quand elle se promène, tout d'un coup, elle dit « Ah, zut alors, je ne suis pas Clarissa, je suis Mrs. Dalloway, la femme de Mr. Dalloway. »
Mais ça, c'est très important parce que justement, ça permet de comprendre que les textes dont nous parlons aujourd'hui, des textes plus théoriques, ne sont pas du tout autonomes et complètement indépendants du reste du travail de Virginia Woolf en tant que romancière.
Non, moi il me semble que Trois Guinées, c'est comme une sorte de cristal taillé sur lequel on pourrait projeter tout, sur chaque facette, projeter chacun des textes fictionnels. Que ce soit La promenade au phare, que ce soit Mrs. Dalloway, que ce soit Les vagues.
Et Anne-Marie Tibiasio, comment est-ce que vous comprenez ce lien entre les essais plus théoriques d'un côté et les romans de l'autre? Est-ce que c'est à l'occasion de la rédaction des romans que Virginia Woolf verrait surgir en elle cette volonté de préciser, de thématiser un positionnement qui est politique vis-à-vis du rôle et de la place des femmes qu'occupent les femmes dans la société dans laquelle elle vit? Ou au contraire, est-ce que ce serait une idée, un combat qui lui tient à cœur, qu'elle exprimerait de manière plus implicite et plus poétique peut-être au sein de ses romans?
Mais je voudrais revenir à l'exemple de la sœur de Shakespeare, puisque je trouve que cet exemple recoupe ces deux questions, puisqu'il s'agit d'un texte qui est à la fois essai et fiction, puisque ce texte, à la différence de Trois Guinées, est écrit d'une façon à la fois rigoureuse et rêveuse. Et en reprenant cette question, puisque je trouve cet extrait d'une grande puissance imaginaire, n'est-ce pas? Et le fait que ça soit Shakespeare... Et Shakespeare, qui pour Virginia Woolf incarne toujours l'esprit poétique le plus libre qui soit, libre, incandescent, sans entrave, et que ça soit cette sœur imaginaire qui doit suivre la trajectoire libre de son frère, mais qui sera arrêtée brutalement, n'est-ce pas, dans son élan, puisqu'il s'agit en quelque sorte... d'une survivance qu'elle nous trace, une survivance moderne pour la femme écrivain, mais ce chemin est arrêté. Elle est arrêtée lorsqu'elle se donne la mort. Elle se donne la mort puisqu'elle se trouve enceinte à la porte du théâtre où elle s'est rendue pour avoir une vie aussi vigoureuse, aussi musclée, aussi aventureuse que son frère. Et voilà que l'identification fraternelle s'arrête là. Et c'est plutôt l'identification maternelle qui l'arrête, puisque elle nous dit que ce cœur de poète ne peut plus exister dans un corps de femme. Il est emmêlé dans ce corps de femme. Et la voilà enterrée à un carrefour. Mais tout en nous donnant cet exemple extrêmement problématique, puisque ce n'est pas un geste féministe, je crois qu'elle inscrit dans son texte là. Plus tard, elle reprend cette sœur de Shakespeare dans une sorte de maïeutique où elle nous dit, elle fait cet appel à la fin de son livre aux femmes futures, à faire revivre et renaître cette sœur morte au carrefour. Donc, c'est de cette façon-là qu'elle garde la question ouverte et la question de l'affiliation ouverte. Puisqu'elle-même, en tant qu'écrivain, on peut dire qu'elle n'a pas su accoucher de cette sœur de Shakespeare qu'elle a imaginée, n'est-ce pas? Puisqu'elle a fait se suicider. Elle ne peut pas... Le cœur de poète et la grossesse ne peuvent pas coexister dans le même corps à ce moment très brutal du texte qui reste... inexpliqué. Mais à la fin, il y a cet appel aux femmes de la faire renaître. Et c'est très beau, puisque ça tisse une filiation à venir vers les autres femmes, tout comme la référence à Antigone dans Trois Guinées. Ce n'est pas une identification absolue à Antigone où on doit s'enfermer dans des caveaux, puisque la barbarie ne nous permet pas d'exister. Qu'est-ce qu'elle cherchait, Antigone? Elle cherchait à découvrir d'autres lois. Et c'est dans cette voie-là qu'elle veut nous inscrire, dans la référence à Antigone aussi.
Et donc dans une voie qui n'est pas uniquement celle du passé, de la généalogie, hein, d'une histoire matérielle des femmes, mais une histoire qui s'ouvre,
qui s'invente
vers un avenir et donc qui s'invente. Et c'est un message qui, en réalité, en fait une réflexion qui a une portée beaucoup plus optimiste du coup que ce qu'on aurait pu penser à premier abord. Hein.
Je pense.
Françoise Duroux.
Oui, je pense aussi parce que effectivement, ce que Virginia Woolf a comme perspective, ça n'est pas du tout, effectivement, des projets d'identification ou de chercher des modèles. Bon, par exemple, dans la promenade au phare, Lily Briscoe admire Mrs. Ramsay, comme tout le monde l'admire d'ailleurs, mais pour elle, elle ne peut pas s'identifier, puisque elle a déjà fait un petit pas de côté, puisqu'elle n'est pas Mrs. quelque chose, elle ne veut pas se marier, elle est peintre, et donc elle a le petit commencement d'une indépendance. Et elle dit effectivement que ça n'est pas une identification, qu'elle ne veut pas lui ressembler, mais qu'elle veut, bon, disons, travailler avec ce que Mrs. Ramsay lui apprend.
Mais alors comment, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission, Anne-Marie Desbiasio et Françoise Duroux, juste pour préciser ce point qui n'est pas encore peut-être très, très clair, comment est-ce que cette pensée de la femme, des femmes, ou de la position qu'occupent les femmes dans la société dans laquelle vit Virginia Woolf, comment cette pensée des femmes prend-elle en compte ou se situe-t-elle vis-à-vis des hommes en tant que telles? Est-ce que l'idée de proposer une forme d'égalité ou d'atteindre une égalité ou une indépendance, ou est-ce qu'on est dans une visée, vous en parliez au début d'émission, Anne-Marie Desbiasio, beaucoup plus revendicative et militante d'un combat qui considère l'altérité comme étant un obstacle et donc il faudrait écraser dans un premier temps pour ensuite atteindre à l'égalité. Comment est-ce qu'on comprend où est-ce que se situe la pensée de la femme de Virginia Woolf par rapport aux hommes en tant que tels?
Mais je trouve qu'elle parle aussi pour certains hommes, comme elle parle pour Jacob, qui est un soldat, qui est aussi opprimé par les forces du gouvernement que les femmes. Et comme elle parle pour Septimus dans Mrs. Dalloway, elle parle contre et pour les frères, elle dit dans Trois Guinées. Elle parle pour les hommes qui sont tués puisqu'ils sont morts et qui sont tués puisqu'ils ont subi les forces du refoulement. Et il y a toujours une identification aux frères. Hein. Le Trois Guinées s'ouvre par cette adresse à un homme qui, dans le portrait, ressemble beaucoup au portrait de son frère Toby, tel qu'il aurait été s'il avait vécu dans une ébauche du passé. Et c'est le contrepoint, le pendant du portrait du dictateur qu'on trouve à la fin du livre. Donc, ce qu'elle dit va au-delà du féminisme, je trouve, puisqu'elle parle contre le refoulement et elle parle pour les hommes. Et il y a toujours l'identification fraternelle qui est très importante là. I wanna talk to you about my girl. 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 'Cause I love my girl. She's got a pretty, pretty face with lovely pale blue eyes. And she's got fleshy, fleshy legs. Me feel so warm, so warm. She makes me feel so warm inside. I wanna talk to you about my girl.
Merci beaucoup Françoise Duroux et Anne-Marie Desbiasio d'être venues nous parler de Virginia Woolf aujourd'hui. De vous, Anne-Marie Smith-Desbiasio, je renvoie à l'ouvrage intitulé Virginia Woolf, la hantise de l'écriture, qu'on trouve aux éditions Indigo. Et je signale également que vous avez coédité un livre qui va sortir et qui s'appelle Woolf Contemporaine, d'ailleurs je ne sais pas comment vous l'avez traduit.
Contemporaine,
et qui sera publié par les éditions de la Méditerranée. Françoise Duroux, quant à vous, je renvoie à l'ouvrage que vous avez dirigé, qui s'intitule Identité politique, écriture, toujours aux éditions Indigo. Et quant aux deux livres dont nous avons parlé aujourd'hui, je renvoie à deux éditions en particulier. Une pièce bien à soi, c'est donc la traduction proposée par les éditions Rivage Poche, donc la petite bibliothèque. Et également une toute nouvelle traduction de Trois Guinées, publiée par Blackjack Édition dans une traduction de Léa Gauthier.
My bed while she's unconscious, I would tear her clothes up and then bite her tits. Exciting, I would open her long legs.
sur le nouveau chemin de la connaissance. Il est 10h50 et 10h50, souvenez-vous, comme tous les jours, c'est l'heure de retrouver François Nudelmann pour le journal de la philosophie. Bonjour François.
Bonjour Adèle. Tout dire, tout faire, tout voir, voilà un beau fantasme qui nous représente notre puissance infinie. La revue Pensée Rêvée consacre son dernier numéro au genre totalitaire comme forme de pensée. C'est le numéro 21 aux éditions de l'Olivier. François Gantret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste, professeur émérite à l'Université de Paris 7, et vous avez participé à ce numéro sur le genre totalitaire. On pourrait se dire, ah ben, le genre totalitaire, c'est un genre politique, mais le numéro nous montre que c'est une forme de pensée aussi.
Oui, d'ailleurs, le terme de genre totalitaire a été choisi précisément pour dépasser simplement les acceptions purement politiques et essayer de cerner d'un peu plus près ce que serait une modalité totalitaire de la pensée, et ce que je crois, enfin qui est assez bien parcouru dans ce recueil, et que pour ma part j'ai, auquel j'ai collaboré, tout particulièrement en m'appuyant à la fois sur des considérations, j'ai appelé ça une question de point de vue, pour insister d'abord sur l'aspect panoptique du pouvoir totalitaire.
Le point de vue du tout, c'est celui qui peut tout regarder,
D'en
haut ou depuis le centre.
C'est ça.
Vous partez d'ailleurs du modèle de Bantam et d'une prison. Vous en donnez une illustration d'ailleurs avec une prison à Cuba, où en quelque sorte on peut voir tout ce qui se passe comme un dieu.
Voilà, comme un dieu, oui, puisque en principe, nous tenons obligatoirement d'un point de vue. Et nous avons une vue partielle, obligatoirement, de la réalité. Et seul Dieu, géométrique de toutes les perspectives, comme
disait Leibniz,
serait à même de saisir la totalité. Alors déjà, du point de vue même de la psychanalyse, puisque quand même cette revue a un fil rouge qui n'est pas unique, mais qui est quand même celui de la psychanalyse, du point de vue de la psychanalyse, déjà, on voit une ambiguïté qui, au fond, va courir tout au long, on ne s'était pas donné le mot, mais quand j'ai vu les autres contributions, je ne les connaissais pas, je me suis aperçu que tous nous tournions plus ou moins autour de cette ambiguïté, à savoir que, d'une part, le genre totalitaire, l'un seul comme détenteur de la vérité, et qui serait, au fond, le pilier même de la servitude, de l'asservissement, et celui auquel nous nous soumettrions. Et là, je vais chercher chez la Boétie, enfin, cette question de la servitude volontaire, l'énigme de la servitude volontaire. Eh bien, c'est double. C'est double parce que, à la fois, nous voyons que ce recours à l'un, qui supprime toute ambiguïté, qui supprime toute métaphore, est le pilier de l'asservissement, et en même temps, que ce serait le recours à un savoir quand un savoir essaye de dépasser les données de la conscience. Je m'explique. Pour prendre par exemple du côté de la psychanalyse.
Oui.
Lorsque Freud essaye de fonder une métapsychologie, c'est-à-dire une vue scientifique qui inclurait une psychologie de l'inconscient, il va se mettre à un point de vue qui embrasserait toutes les perspectives.
Et c'est d'autant plus intéressant et curieux parce que c'est la critique qu'il fait à la philosophie.
Exactement.
D'avoir ce point de vue de système qui va tout englober, qui va penser que tout fait sens.
Voilà. Exactement. Et alors, on a beaucoup d'autres aspects qui cultivent, ou plutôt indiquent la même ambiguïté. Est-ce que la création, est-ce que toute action créative ne puisse pas, en un territoire antérieure à toute relativisation, un territoire de la sensation pure, dans lequel nous ne pouvons pas rester, d'où il faut émerger. Et il y a pas mal de témoignages de peintres, de poètes qui parlent de cette submersion dont il faut émerger avec le langage, mais qui est le recours nécessaire à une création. Or, c'est là aussi un recours, et même du côté politique, si politique et philosophique, je fais appel aussi à quelque chose qui est un peu oublié maintenant, qui est la critique de la raison dialectique de Sartre. Mais le groupe en fusion dans lequel il voit le moment créatif révolutionnaire avant qu'il ne retombe dans la bureaucratie et dans la sérialité, eh bien, ce moment est celui d'une fusion dans l'un.
Oui,
dans
l'un. Donc, si je vous entends, François Gantret, le fantôme du tout se manifeste toujours dès qu'on pense que ce soit une réalité historique ou que ce soit une réalité psychique, on essaye de l'englober dans une totalité.
Exactement.
Est-ce que c'est un destin? Est-ce que c'est psychanalytiquement une sorte de désir infantile, mais qui devient une idéologie parce que voilà, il faut absolument fonder cette totalité? Ou bien est-ce qu'on peut y échapper?
On peut le penser en termes d'abord, on peut le penser en termes psychanalytiques, au sens où peut-être que la référence originaire pour nous serait ce qu'on appelle l'infance, celui qui ne parle pas, celui qui n'a pas le langage avant tout langage. Mais je pense que ça va plus loin et il manque quelque chose. Moi, je suis en train de poursuivre ce travail sur une dimension qui m'a manqué, qui manque à mon travail, que l'on trouve dans le très bel article de Jean-Claude Roland autour de la poésie. Et en deçà, disons, des considérations psychanalytiques, c'est que la question du langage. Nous sommes astreints au langage. Nous sommes astreints au langage et vous ne te rappellerez pas, par exemple, le Barthes, la leçon inaugurale de Barthes, la langue est totalitaire, la langue est fasciste. Bon, c'est provocateur. Il n'empêche, la langue est un code, elle est communation. Et à partir du moment où on entre dans le langage, nous devenons des êtres parlants, nous sommes privés de ce qui a dû être retranché.
Ça, c'est une position logocentrique, non ?
Logocentrique, oui. Mais logocentrique, ça impliquerait, dire que c'est une position logocentrique, impliquerait qu'on pourrait en avoir une autre, mais laquelle ?
Oui. Mais justement, c'est la question que je voudrais vous poser. Est-ce qu'on ne peut pas admettre que tout, justement, ne soit pas assignable à un tout avec un grand T ? C'est-à-dire qu'il n'y ait pas forcément tout à la fois, c'est-à-dire qu'il reste du dehors, du silence, du silence qui ne soit pas simplement un manque de langage, quoi, de l'idiotie, du singulier sans universel. Est-ce que tout cela, c'est quand même pensable sans le fantôme du grand tout?
Oui, c'est pensable. Et je suis content que vous fassiez appel à cette question du silence, parce que j'ai cité Claude Lefort, Claude Lefort qui est une référence importante pour moi, qui a commenté superbement l'échange La Boétie-Montaigne.
Oui, le contraint, oui.
Qui prend en considération ce qu'on a pu reprocher à la Boétie, à savoir qu'il y avait là une déclamation, mais pas de proposition. Une déclamation contre le 1, mais pas une déclaration en faveur, par exemple, de la République.
D'un système politique.
D'un autre système politique. Et où il dit que ce que la Boétie porte ainsi, c'est un appel au silence. Un appel au silence pour que quelque chose d'autre, éventuellement, puisse émerger. Et je crois que c'est aussi vrai, c'est une leçon même pour la psychanalyse.
Le patou.
Le patou et le en deçà de l'interprétable.
Merci beaucoup François Gantret. Je recommande donc la lecture de cette revue très, très diverse sur cette question. Le genre totalitaire, c'est le numéro 21 de la revue Pensée rêvée. Vous pouvez retrouver le journal de la philosophie et le podcaster sur le site de franceculture.fr.
Merci beaucoup François. Ainsi s'achèvent les nouveaux chemins. Mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain bien sûr pour la suite de cette semaine consacrée au travail de Virginia Woolf. Demain, je recevrai Christine Régnier qui viendra vous parler des relations entre la pensée et l'écriture de Woolf et la morale victorienne. Ce sera l'occasion d'évoquer un texte peu connu intitulé « Sur la maladie ». Vous voulez réécouter cette émission, c'est possible en vous rendant sur le site internet de France Culture, franceculture.fr, à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez toutes les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour et vous pourrez également télécharger, podcaster l'émission afin de l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. En 30 secondes, il sera 11h, ce sera pour vous le moment de retrouver Culture Monde, présenté aujourd'hui par Anthony Bélanger.